Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
Après Rome, Thésée se déplace à Istanbul. Une centaine de jeunes y sont accueillis par des familles chrétiennes. Des chrétiens, nous le verrons, fragilisés en Turquie comme dans la plupart des pays de la région, dont l'Égypte. Le patriarche de Jérusalem évoque un véritable calvaire. C'est à cette situation que sera consacrée la première partie de ce magazine. L'Italie se cherche un leader à quelques semaines des élections, mais l'Église ne propose aucun candidat. Quant à la reconstitution d'un parti chrétien, cette question n'est plus à l'ordre du jour. Décryptage dans cette émission. Et puis, cette information qui intrigue la presse et pas seulement, l'utilisation des cartes bancaires est suspendue au Vatican. Cette mesure exceptionnelle restera en vigueur jusqu'à une date qui reste à préciser. Une nouvelle étape du pèlerinage de confiance sur la terre. Une délégation de Thésée a entamé une visite de 4 jours à Istanbul pour la fête de l'Épiphanie. Immédiatement après la 35e rencontre européenne qui s'est tenue ces jours derniers à Rome, le prieur, frère Aloïs, est parti pour la Turquie avec un groupe d'une centaine de jeunes de plusieurs pays et de frères de la communauté œcuménique. Ils rencontreront notamment le patriarche orthodoxe Bartholoméos Ier et prieront avec les chrétiens d'Istanbul. Marie Duhamel.
Les premiers contact entre Thésée et le patriarcat œcuménique de Constantinople remonte aux années 60. Le fondateur de la communauté, le frère Roger, avait rendu visite en 1962 au patriarche Athénagoras. Celui-ci lui avait offert une icône de la Vierge Marie qui se trouve toujours dans la chambre du frère Roger à Thésée. Depuis, il y a eu d'autres visites, d'autres contacts, d'autant que Bartholoméos Ier a toujours manifesté un grand intérêt pour les activités de Thésée. C'est lui qui a invité frère Aloïs à Istanbul cette année, un rayon de soleil pour les communautés chrétienne de Turquie confrontée à de nombreuses difficultés. Selon des estimations, il ne resterait plus que 90 000 chrétiens en Turquie, dont 24 000 catholiques, une goutte d'eau dans un océan musulman. Surveillés de près par le gouvernement, ils ont parfois le sentiment d'être des citoyens de seconde classe dans une région qui a été l'un des berceaux du christianisme. Les chrétiens souffrent surtout de la non-reconnaissance juridique de leurs institutions, ce qui les laisse à la merci de la bureaucratie et des administrations locales. L'été dernier, après 3 années de procédure judiciaire, la Cour de cassation de Turquie a donné tort au monastère syrien orthodoxe de Mar Gabriel, cœur spirituel du peuple syriaque, en l'accusant d'occuper abusivement ses terres. Cette décision a créé un choc auprès de toutes les communautés chrétiennes du pays.
Au programme de la visite de la délégation de Thésée à Istanbul, la célébration des Vêpres ce jeudi soir en l'église gréco-orthodoxe de la Sainte Trinité au centre d'Istanbul, une prière animée par les chants de Thésée vendredi soir, en l'église arménienne catholique de Saint-Jean Chrysostome et les vêpres de la fête de l'Épiphanie samedi soir au Fanar, siège du patriarcat œcuménique. Samedi soir, des chrétiens et leurs amis musulmans organiseront des rencontres conviviales dans divers endroits de la ville. La délégation de Thésée effectue cette visite à Istanbul après avoir vécu à Rome un temps de profonde unité avec le pape. Écoutez frère Aloïs s'interroger avant son départ de Rome.
À la fin de ce pèlerinage de confiance que nous avons vécu ici à Rome, il y a la joie et l'espérance, je pense. Les jeunes sont repartis ce matin avec une grande joie de l'accueil à Rome, dans les paroisses, dans les communautés religieuses et surtout aussi de la prière avec le Saint-Père sur la place Saint-Pierre. Chanter ensemble, avoir un long moment de silence ensemble, et avec le pape, nous étions tournés vers la croix, vers le Christ. Je pense que c'était un moment vraiment de l'évangile qui va marquer les cœurs pour longtemps. Alors, maintenant, nous espérons que les jeunes peuvent regarder l'avenir avec joie et espérance, l'avenir qui est souvent difficile pour eux. Concernant des difficultés économiques, le chômage, etc., l'Église peut vraiment donner une espérance aux jeunes d'aujourd'hui. C'est ça que nous retenons de cette rencontre.
Frère Aloïs, prieur de la communauté œcuménique de Thésée. Direction l'Égypte à présent, où l'année 2012 aura été celle d'une transition démocratique mouvementée, marquée entre autres par l'accession de Mohamed Morsi à la présidence du pays et l'adoption d'une nouvelle constitution controversée basée sur la charia, marquée surtout par le mécontentement des Égyptiens, animé d'une flamme révolutionnaire toujours vivace et plus que jamais décidée à défendre les fruits chèrement acquis du printemps arabe. Nous avons pu joindre Mgr William Kyrillos, évêque copte catholique d'Assiout. Il dresse un bilan de cette année politiquement et socialement chargée. Il est interrogé par Manuela, à Fidji.
Depuis qu'on a fait la révolution du 25 janvier 2011, on revêt un avenir plus beau en Égypte. Plus de démocratie, plus de liberté. Et les jeunes qui étaient réunis sur la place, tous ensemble, musulmans et chrétiens, priaient ensemble, réclamaient ensemble la liberté, la démocratie. Et on voit vraiment tout ça perdu avec le temps. On voit l'arrivée des extrémistes, des islamistes au pouvoir, qui étaient d'ailleurs les plus organisés. Ces jeunes n'avaient pas un leader, n'avaient pas quelqu'un qui les réunit ensemble. Bon, alors, on attend, on ne sait pas ce qui va arriver, mais on a toujours confiance dans le Seigneur, surtout, dans sa providence, et aussi la bonne volonté et l'assiduité de ces jeunes qui continuent toujours à réclamer les buts de la révolution. Peut-être on aura des changements. On ne peut pas continuer comme ça, vraiment. Parce que la Constitution ne représente pas toute la population égyptienne. Le comité qui l'a écrit, le comité a imposé un peu leurs opinions. C'est pourquoi l'Église s'est retirée. Ils ont lutté jusqu'à la fin pour essayer de mettre un peu d'équilibre. Mais lorsqu'ils ont aperçu qu'ils n'arrivaient pas, bon, alors ils se sont retirés pour ne pas être complices dans une Constitution qui n'est pas ce que rêvaient tous les Égyptiens.
Est-ce que vous envisagez une solution?
L'unique solution est une nouvelle révolution. On appelle à une nouvelle révolution le 25 janvier, l'anniversaire de la révolution il y a 2 ans, et on attend. Et quelque chose doit changer, parce qu'on a aperçu que les frères musulmans n'ont pas les compétences pour pouvoir diriger un pays si grand comme l'Égypte. Il y a un peu de confusion. Et les choses ne sont pas très claires.
À quel niveau est-ce que ça se voit? Est-ce que c'est au niveau administratif, social?
De tout, vraiment. Il y en a beaucoup de problèmes en Égypte, surtout économiques, qui ont besoin des compétences et d'expérience qu'ils ne possèdent pas.
Qu'est-ce que vous souhaitez pour cette année 2013 qui arrive? Et qu'est-ce que vous souhaitez pour votre pays, l'Égypte? Et qu'est-ce que vous souhaitez pour votre communauté?
Vraiment, la paix pour tout le monde, la paix pour notre pays, la paix pour tous les cœurs, toutes les familles. Et nous allons célébrer dans quelques jours ici, comme on a fait l'an dernier, c'est la deuxième fois d'ailleurs, une prière commune avec nos frères musulmans et toutes les confessions chrétiennes pour la paix, ici dans notre cathédrale, le vendredi prochain, à l'occasion de la Journée mondiale de la paix, en prenant toujours le thème que le Saint-Père énonce, bienheureux les artisans de la paix. Et on invite des orthodoxes, des protestants et des musulmans. Et l'an dernier était vraiment très, très émouvant. Et cette année, je pense aussi, on le fera.
Mgr William Kyrillos, évêque copte catholique d'Assiout, en Égypte. Les chrétiens vivent un véritable calvaire dans tout le Moyen-Orient, c'est le patriarche latin de Jérusalem qui l'affirme. Mgr Fouad Toual a indiqué que la situation ne cessait de s'aggraver. Il lance un appel à la solidarité internationale. Des catholiques dans tous les partis politiques italiens. Cette présence transversale est désormais une évidence. Pas question donc pour l'Église italienne de soutenir une candidature, pas même celle de Mario Monti, pas de volonté non plus de reconstituer la démocratie chrétienne. C'est l'une des figures de proue de la curie romaine qui l'affirme. Mgr Rino Fisichella, président du plus jeune dicastère du Vatican, le conseille pour la nouvelle évangélisation voulue par Benoît XVI. L'Église a-t-il expliqué à la presse italienne demande le respect des principes qui ne peuvent être négociés et elle exhorte les catholiques, quelle que soit leur couleur politique, à s'engager sur la scène publique pour défendre ces principes. Autrement dit, il n'est pas vrai que le Vatican et l'Église italienne soutiennent Mario Monti. Selon Mgr Fisichella, la contribution des catholiques à la vie politique doit être active, ouverte au dialogue, orientée vers le bien commun et non pas vers des intérêts particuliers. C'est sur la base de leur cohérence et pas de leurs promesses de campagne que les politiques catholiques seront jugées. Il y a quelques jours, l'Osservatore Romano, le quotidien du Vatican, avait publié un éloge appuyé du chef du gouvernement démissionnaire Mario Monti, qui s'est lancé dans la bataille des législatives de fin février à la tête d'une coalition centriste et réformatrice. Cet éloge avait été interprété comme un soutien implicite du Vatican. Antonino Gallofaro a interrogé le politologue italien Giuseppe Bettoni.
Les catholiques en politique ont eu des si mauvais résultats dans les dernières 20 ans que je pense que la conférence épiscopale italienne a plus que jamais sauté sous l'occasion de dire finalement en politique qui est catho et qui en plus est droit dans sa manière, sobre dans sa manière, que je pense que c'est l'image que la conférence épiscopale italienne voudrait du catholique en politique. Je ne pense pas que Bagnasco a voulu affirmer l'appui de la conférence épiscopale italienne à Monti pour lui donner des voix de plus ou je ne sais pas quoi. Je pense qu'il a fait pour indiquer plutôt un exemple de catholique en politique. Donc revenir à un catholicisme engagé, mais de cette qualité-là, je pense que pour l'Église italienne, c'était quelque chose d'important et à ne pas laisser passer comme inaperçu.
Mario Monti, un exemple catholique en politique, comme vous le dites. Cette image de catholique, est-ce que le candidat Monti va en jouer ?
Surtout pas. D'abord, parce que c'est un homme d'ambition politique et de pouvoir et de gestion. Et surtout parce que c'est un homme qui est très attaché à une manière de gérer ces choses, d'une manière totalement laïque. Je pense que l'image de Mario Monti va être un politique exactement comme celle de Carlo Azeglio Ciampi quand il était al Quirinale. C'est-à-dire un catholique qui cherche à faire de mieux son être catholique, mais non pas à tenir ni des discours, ni des lignes politiques engagées politiquement. Je vous fais un exemple. Je ne pense pas que Mario Monti prendra aucune décision dans cette matière, style la procréation assistée ou le testament biologique, etc., sans avoir un vrai débat républicain avec une position qui est sans doute catholique et ce sera la sienne, parce qu'on ne peut pas non plus laisser ses mœurs et ses valeurs dans l'armoire à la maison, mais il le fera avec la responsabilité du président du Conseil des ministres, sachant qu'il doit représenter et agir pour des âmes différentes de la société. Donc je ne pense pas qu'il assumera la moindre décision qui pourrait toucher des questions de religion ou de société sans avoir un débat complet. Il n'imposera pas son être catholique. Il sera tout simplement comme Guglielmo Pepe aurait voulu être ou aurait voulu un catholique en politique, c'est-à-dire des gens catholiques mais qui font de la politique en laissant bien de côté un peu leur aspiration catholique. Donc des catholiques, oui, mais qui mènent une politique qui est laïque et qui gardent comme valeurs fondamentaux leur catholicisme.
Mario Monti rentre en politique, donc. Qu'est-ce que ça change dans la campagne législative et dans le paysage politique italien ?
Ça change beaucoup dans la mesure de laquelle il va y avoir un vrai pôle centriste qui va pouvoir s'appuyer sur une figure fortement critiquée, c'est vrai, mais qui est quand même aussi appréciée dans les dernières 10 années de la vie politique italienne à niveau de gestion. C'est sans doute la personnalité que, dans le bien comme dans le mal, reste un peu le meilleur résultat du moment, si on peut ainsi dire. Donc, il a un capital de confiance qui s'est assez usé dans les derniers mois, sans doute, mais qui reste encore important. Et il va capitaliser ça. Mais si on s'arrête à aujourd'hui, on regarde très haut, on va se dire que Bersani a un bassin possible, celui de la gauche. Le centriste est complètement attiré, si vous voulez, par Monti, mis à part par ces mouvements catholiques qui ont plutôt tendance à se fier à la laïcité que non à l'engagement religieux en politique. À mon avis, Monti risque d'avoir un très grand résultat et le moment venu pour composer un gouvernement, il pourrait se faire avec la gauche de Bersani, mais la gauche de Bersani ne pourra jamais prétendre avoir la présidence du Conseil des ministres. C'est possible, invraisemblable, d'imaginer un Monti 2, cette fois-ci totalement politique, avec l'appui de la gauche, aux prochaines élections.
Est-ce que Mario Monti fera de l'ombre au Parti démocratique le favori de ces législatives ?
La gauche complètement éclipsée, non. Parce qu'aujourd'hui, le parti politique le plus important reste le Parti démocratique. Donc Non, je ne pense pas que c'est la gauche qui va être éclipsée et qu'on va faire un gouvernement avec le PDL. Surtout que le PDL, personnellement, je trouve, va être assez ébranlé. Il faudra les voir parce que personnellement, je crois que si le PDL descend en dessous de 13-14 points de pourcentage aux prochaines élections, et il est fort vraisemblable que cela arrive, parce qu'avec un Berlusconi en cet état, avec tous les revers qu'il a dû subir, avec une partie de son alliance qui est partie avec Monti, le capital d'image qu'il y a aujourd'hui Monti, très franchement, à mon avis, ne dépasseront jamais 15%. Pourquoi pas descendre en dessous de 10%? S'ils arrivent à avoir moins de 15%, le parti politique de Berlusconi s'ébranle à 1000 morceaux et ça sera absolument fini. Et là, il restera à voir donc qu'est-ce que ces gens vont devenir. Mais personnellement, je pense que tout se fera plutôt entre le centre et le Parti démocratique.
C'était le politologue italien Giuseppe Bettoni. Et l'Italie a rendu un vibrant hommage à Rita Levi-Montalcini, décédée dimanche à l'âge de 103 ans. 4000 personnes ont participé à ses obsèques mercredi au cimetière de Turin. Cette infatigable neurologue juive italienne avait reçu le prix Nobel de médecine pour sa découverte du facteur de croissance nerveux, une protéine fondamentale dans le développement du cerveau. Le Vatican s'est associé à cet hommage national. Bernard de Cotigny.
Rita Levi-Montalcini a été la première femme à faire partie de l'Académie pontificale des sciences, une figure éminente selon le directeur du bureau de presse du Saint-Siège, non seulement pour sa valeur scientifique, mais aussi pour son engagement civil et moral, pour l'exemple qu'elle a offert à la communauté italienne et internationale. Elle était notamment appréciée au Vatican pour sa sensibilité aux atteintes à l'environnement, à la question de l'accès à l'eau et du développement durable. Une femme extraordinaire, a commenté pour sa part le chancelier de l'Académie pontificale des sciences. Monseigneur Sanchez Orondo raconte qu'elle était très préoccupée par les atteintes à la dignité humaine et par la condition féminine. Il se souvient de sa mémoire prodigieuse, elle ne prenait jamais de notes, de sa délicatesse, de son élégance, de sa prudence, de sa joie de vivre et de sa passion pour la vérité. Elle était un modèle d'intégrité morale. La vitalité de Rita Levi-Montalcini suscitait l'admiration. Lors de son 100e anniversaire, elle s'était dite optimiste et heureuse d'être encore en vie par-delà toutes les épreuves. S'adressant aux jeunes, elle leur avait livré sa recette. Ne jamais trop se soucier de sa propre personne. Regarder plutôt autour de soi et contempler la beauté de la nature et de l'humanité. En 1987, elle avait intitulé son autobiographie « Éloge de l'imperfection ».
Je vous le disais en titre, depuis le 1er janvier, les touristes qui souhaitent visiter la chapelle Sixtine ou les musées du Vatican doivent payer en espèces ou par chèque. Même situation à la pharmacie, au supermarché, commerce et autres points de vente du petit État. L'utilisation des cartes bancaires est suspendue. Le directeur du bureau de presse du Saint-Siège a expliqué que les rapports entre certains bureaux de la Cité du Vatican et un de leurs prestataires de services pour l'utilisation des cartes bancaires et paiements électroniques, était en voie d'expiration. Le père Federico Lombardi ajoutait que des contacts étaient en cours avec plusieurs prestataires de services et que cette interruption serait de courte durée. Cette mesure ne concerne pas l'utilisation des bancomates délivrés par l'IOR, l'Institut pour les œuvres de religion. De son côté, la Banque d'Italie affirmait avoir pris cette décision, car ce service était assuré depuis des années par la filiale italienne de la Deutsche Bank sans autorisation préalable. La presse italienne s'est déchaînée autour de ce qu'elle considère comme une nouvelle affaire impliquant les finances du Vatican. Elle cite des experts pour qui le blocage des paiements électroniques est une mesure grave, qui n'est adoptée que dans les cas de situations suspectes, comme des opérations de blanchiment. Il y a une quinzaine de jours, le sous-secrétaire italien au Trésor avait affirmé que l'IOR n'était pas autorisé à intervenir en Italie et à utiliser les services des banques italiennes, et ce, en vertu des nouvelles normes contre le blanchiment. Et puis sachez qu'en 2012, plus de 2 millions de personnes ont participé aux audiences et célébrations présidées par Benoît XVI. C'est la préfecture de la maison pontificale qui l'indique. Depuis 2005, quelque 20 500 000 personnes ont participé aux rencontres publiques du pape au Vatican et à Castel Gandolfo, la résidence d'été. C'est la fin de cette émission. N'oubliez pas que vous pouvez également nous retrouver sur Internet et sur Facebook. Merci de nous avoir suivis.